Marc Fromager, bonjour.
Bonjour. On enchaîne tout de suite. On est dans le temps pascal et je reviens à Pâques. C'était il y a 3 semaines avec quelques brèves au départ sur la Terre Sainte. Et ensuite, on basculera bien sûr sur le reste de la région et notamment ce conflit entre Israël, Gaza, on le connaît déjà, le Hezbollah au sud du Liban, au nord d'Israël aussi, mais donc cet affrontement un peu, cette partie de ping-pong avec l'Iran qui aujourd'hui évidemment nous inquiète. Mais revenons tout d'abord donc à Pâques, à la Terre Sainte, avec le pape qui exprimait sa solidarité, c'était il y a 3 semaines donc. « Frères et sœurs, je veux vous dire, vous n'êtes pas seuls et nous ne vous laisserons pas seuls », a dit le pape François en exprimant sa solidarité aux catholiques de Terre Sainte. « Je suis proche de vous tous dans vos différents rites, en particulier de ceux qui, en ce moment difficile, souffrent le plus douloureusement du drame absurde de la guerre ». Alors, toujours en Terre Sainte, mais là, c'est le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pizzaballa, qui a lancé un appel aux nombreux pèlerins qui, à cause du conflit, n'ont pas pu atteindre la Terre Sainte, ne viennent plus. Que nous dit-il, ce cardinal? Eh bien, il nous dit « Nous vous attendons, n'ayez pas peur, revenez à Jérusalem et en Terre Sainte. Votre présence est toujours une présence de paix et aujourd'hui, nous avons tellement besoin de paix ». Toujours le patriarche latin de Jérusalem qui nous dit « l'Église est à vos côtés ». Il a évoqué les habitants de Gaza auxquels il s'est adressé avec émotion. Je le cite « Chers frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls. Toute l'Église de Jérusalem est à vos côtés, vous embrasse et vous remercie pour votre témoignage de force et de courage. Avec nous, toutes les églises, toutes nos frères et sœurs du monde prient pour vous. » Je rappelle qu'à Gaza, il y a un petit peu moins d'un millier de chrétiens, donc vraiment une toute petite communauté catholique et orthodoxe et qui, avec le reste de la population, se retrouve dans l'œil du cyclone de ce conflit qui ne semble pas vouloir se terminer aussitôt. Terre Sainte toujours. Mais là, on passe au Vatican avec Mgr Gallagher, le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, un peu le ministre des Affaires étrangères du Vatican. Il a réitéré la solution « deux peuples, deux États » pour l'avenir d'Israël et de la Palestine. Le Saint-Siège a toujours continué à insister sur cette solution, mais pour beaucoup, elle n'était plus considérée comme possible. Les gens voient maintenant qu'une solution politique doit être recherchée, conclut-il. Terre Sainte, pour finir cette première série de brèves dans l'octave de la résurrection, justement la lumière de la résurrection. Mgr Rafik Nara, évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem, je le cite, « Si l'on pose un regard de façon globale, les ténèbres sont partout. » Je pense qu'on peut être d'accord avec lui sur ce point-là. Mais je pense, et là je le cite à nouveau, qu'il faut toujours être capable de voir la présence de la lumière. Il y a la lumière du Christ qu'on attend, la lumière de la résurrection, mais il y a aussi des actes de lumière qui sont déjà là. Dieu l'entende. Alors, nous passons en Irak, où justement, j'étais récemment à nouveau, et notamment à Mossoul. Alors, Mossoul, c'est la deuxième plus grande ville du pays, c'est au nord, c'était, pour ceux qui s'en souviennent, l'ancienne capitale de l'État islamique. Il ne faisait pas bon, évidemment, d'y mettre les pieds à cette époque, et surtout pour des chrétiens, les chrétiens qui avaient dû fuir la ville et toute la région autour, la plaine de Ninive, pour se réfugier au Kurdistan ou plus loin en Irak. 125 000 chrétiens étaient partis, mais au total, plus d'un million de personnes avaient fui la zone pour ne pas être sous le contrôle de l'État islamique. Et justement, donc nous y sommes retournés avec SOS Chrétien d'Orient, où nous avons assisté à la reconsécration d'une église à Mossoul. C'était l'église Umm al-Mauna, qui veut dire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Elle a été inaugurée, ainsi que l'école chrétienne attenante. et quelques commerces appartenant à des chrétiens pour permettre aux familles chrétiennes eh bien, d'avoir, on l'espère, un avenir sur place. Ces travaux ont duré plus de 2 ans. Ça a été le plus grand projet de SOS Chrétien en 10 ans, depuis les 10 ans de la fondation de cette association. Pratiquement 1 million d'euros au total, comprenant l'église, l'école et les commerces. Et donc tout le monde était là, le patriarche chaldéen, Monseigneur Sacco, le cardinal Sacco, Monseigneur Najib également, qui était dominicain, qui est l'archevêque de Mossoul aujourd'hui, ainsi que des autorités civiles, politiques, des musulmans, un petit peu tout le monde. Et on a eu cette inauguration de l'église rénovée, ainsi que sa reconsécration, un très heureux événements auxquels j'ai eu donc la joie d'assister. C'était au début du mois d'avril. Irak-Syrie, on reste un peu dans la région avec le nouvel an assyrien. Les chrétiens assyriens du Kurdistan irakien et du nord de la Syrie ont célébré le 1er avril leur nouvel an appelé Akitu, considéré comme l'une des fêtes religieuses les plus vieilles au monde. Cette fête qui puise ses origines dans la Mésopotamie antique marque notamment le retour du printemps et se traduit par une grande effervescence dans plusieurs villes. En Syrie, et vous l'avez suivi, c'est ce qui a donné d'ailleurs lieu aujourd'hui à tous ces développements dans ce conflit irano-israélien, eh bien, l'attaque du consulat iranien à Damas, 6 missiles tirés par des chasseurs F-35 israéliens ont détruit le bâtiment abritant le consulat et la résidence de l'ambassadeur iranien à Damas, faisant 13 morts, dont 2 généraux de la force Quds. Moscou a dénoncé une attaque inacceptable et Téhéran a promis de riposter, ce qu'il a fait par la suite, nous y reviendrons. Le guide suprême d'Iran a déclaré mercredi qu'Israël serait giflé après les frappes aériennes. Au Liban, entre provocation et riposte, c'est l'autre front de la guerre qui a repris le 7 octobre au Proche-Orient. Après l'attaque du Hamas, donc, on est au sud du Liban, où l'armée israélienne riposte de plus en plus fortement aux attaques du Hezbollah sur le nord de son territoire, avec des attaques ciblées contre les cadres du mouvement et des bombardements de plus en plus éloignés de la frontière, qui ont déjà coûté la vie à près de 70 civils libanais. Arabie Saoudite, une note un petit peu plus légère, avec une piscine à débordement. L'Arabie Saoudite ajoute une immense piscine à débordement de 450 mètres de long à sa ville futuriste, Neom, située à 36 mètres d'altitude le long du toit de la structure. Cette merveille architecturale en forme de pont est conçue pour combler un lagon, s'appellera Trayam et offrira des vues panoramiques sur les eaux turquoises et le sable doré du golfe d'Aqaba. On a hâte de voir ça. On enchaîne et on revient avec le Liban. Meurtre politique, point d'interrogation. Le chef du Hezbollah a répondu lundi 8 avril aux forces libanaises qui avaient qualifié de meurtre politique l'assassinat de Pascal Sleiman, un cadre de ce puissant parti chrétien. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, donc, a nié tout lien avec l'assassinat et a affirmé que les partis chrétiens, forces libanaises et phalanges, étaient des semeurs de discorde qui recherchent la guerre civile. Rien que ça. Eh bien, toujours Liban, du coup, les chrétiens, eux, ils sont plutôt dans l'appel au calme, et notamment le patriarche maronite, Beshar Haraï, qui est cardinal également, il a appelé au calme et à la modération dans cette situation politique, sécuritaire et sociale délicate et tendue. Je le cite, après l'assassinat donc d'un membre des forces libanaises. Que Dieu protège le Liban et son peuple des malfaiteurs, a-t-il ajouté, et appelé les médias à s'abstenir de toute interprétation erronée et à ne pas alimenter le feu de la discorde. En Terre Sainte, on y revient, on reste quand même un peu dans la région, hein. Le climat est triste. À Jérusalem, nous avons vécu une Pâque sainte sans pèlerins et sans chrétiens de Cisjordanie, témoigne le franciscain égyptien Ibrahim Faltas, qui est vicaire de la custodie de Terre Sainte. Le climat est triste et l'espoir s'estompe, dit-il. Le manque de confiance dans l'avenir des jeunes est particulièrement frappant. La tristesse de ne pas pouvoir construire leur vie sur leur terre natale. Terre Sainte, toujours et encore, une chrétienne à l'autorité palestinienne. Le premier ministre désigné de l'autorité palestinienne, Mohamed Mustafa, a nommé l'arménienne Varsen Agavekian, ministre d'État aux Affaires étrangères et aux expatriés, dans le nouveau cabinet. Née en Jordanie en 1958, elle est docteure en affaires politiques et membre du comité présidentiel supérieur pour les affaires ecclésiastiques en Palestine. Une note également un peu plus légère en Arménie, Paris-Erevan à pied. Eh bien, il s'agit d'un jeune étudiant français de 21 ans, Erwan. Il s'est lancé le 9 janvier dernier dans un grand pèlerinage de 4 mois afin de rejoindre l'Arménie, où il sera volontaire pour 2 mois avec l'association SOS Chrétien d'Orient, à laquelle il reversera une cagnotte. « C'est un pays qui me touche tout particulièrement, dit-il. C'est un des berceaux du christianisme. » L'Iran, j'en ai déjà parlé, eh bien, riposte évidemment contre cette attaque israélienne contre leur consulat, le consulat iranien à Damas. Et on peut parler de riposte massive. En réponse donc à ce bombardement, les Iraniens ont lancé le 13 avril une attaque aérienne massive contre Israël. Embrasement à venir ou guerre de communication, point d'interrogation. L'attaque, en effet, a fait beaucoup de bruit, mais peu de dégâts. Pertinence de la défense anti-aérienne israélienne ou alors simple message iranien, réponse dans les jours à venir. En gros, les Iraniens se devaient de riposter, de faire quelque chose. Ils ont lancé cette attaque à grande échelle. La plupart des missiles, des drones et autres ont été interceptés, mais donc on a l'impression qu'ils n'ont pas voulu tout de même occasionner trop de dégâts. Quelques missiles sont tout de même arrivés à destination, notamment sur des bases aériennes, donc il y a eu des dégâts. Tout cela n'est pas trop ébruité, et depuis, Israël a à nouveau envoyé quelques missiles sur des sites iraniens en Syrie et même en Iran, mais pour le moment, cela reste assez calme, et évidemment, tant mieux, et on espère bien que ça demeurera de cette manière et qu'il n'y aura pas d'embrasement. On peut imaginer qu'on arrive à une forme de paroxysme où il y a forcément, à un moment donné, en réalité, ni l'un ni l'autre ne souhaite sans doute la Troisième Guerre mondiale et ils vont devoir trouver d'autres solutions. En tout cas, c'est ce que nous pouvons espérer, même si rien n'est jamais sûr dans cette région et on peut s'attendre à tout et craindre le pire à chaque instant. Le pire, eh bien, c'est ce que nous avons vu en Australie, vous l'avez peut-être suivi, une attaque dans une église orientale, qualifiée de terroriste par la police australienne. L'attaque au couteau survenue le lundi 15 avril dans une église de Sydney par un adolescent musulman contre l'évêque de la communauté, Marie Emmanuel, a frappé la communauté assyrienne d'Australie. Poignardé à la tête et au buste, l'évêque est dans un état stable et sa santé s'améliore, a informé l'Église mardi. Turquie-Irak, reconnaissance du génocide assyro-chaldéen. Vous le savez sans doute, chers auditeurs, on parle souvent du génocide arménien commis par les Ottomans, donc les Turcs de l'époque, plus de 1,5 million de chrétiens qui sont morts au début du XXe siècle. Mais il y a eu également d'autres génocides contre les chrétiens à cette époque, notamment le génocide assyro-chaldéen. Assyro-chaldéen, mais c'était le nom des chrétiens, d'un certain nombre de chrétiens de la région. Les Chaldéens, c'est encore le rite principal en Irak, par exemple, et les Assyriens, eh bien, dans cette partie, Syrie, Turquie, dont nous parlons actuellement. Le 29 avril, l'Assemblée nationale en France se prononcera sur un crime longtemps oublié, les persécutions commises dans l'Empire ottoman en 1915 contre les assyro-chaldéens. Vendredi dernier, une proposition de résolution portant sur la reconnaissance et la condamnation de ces persécutions comme génocide a en effet été enregistrée. On peut imaginer et espérer un large consensus sur la question. Éthiopie-Djibouti, là on s'éloigne un peu, mais c'est toujours la question des chrétiens d'Orient. un chemin de fer rentable. La ligne de chemin de fer Éthiopie-Djibouti, construite sur 752 km par la Chine et inaugurée en 2018, a généré 2,84 milliards de birres éthiopiens. Alors on se calme, en dollars ça fait quand même beaucoup moins, mais tout de même 50 millions de dollars américains au cours des 9 premiers mois de l'année fiscale 2023-2024. En plus du fret désenclavant Addis Abeba, la capitale éthiopienne, la ligne a été en mesure de transporter 148 000 passagers au cours de cette même période. Enfin, Émirats Arabes Unis, une tempête exceptionnelle, vous l'avez sans doute également suivi, chers auditeurs, sur les actualités. Les Émirats Arabes Unis et essentiellement Dubaï ont été frappés par une importante tempête. Plus de 120 mm d'eau sont tombés sur l'état du Golfe, perturbant notamment le trafic aérien sur un des aéroports les plus fréquentés au monde. Les avions arrivant à l'aéroport de Dubaï ont en effet été provisoirement déroutés. Les techniques d'ensemencement des nuages semblent encore mal apprivoisées. En fait, il semblerait que donc tout cela ne soit pas forcément naturel. Il y a des techniques aujourd'hui où avec des avions, on peut projeter des cristaux de sodium, alors je ne connais pas la technique par cœur, dans des conditions météorologiques déjà un petit peu propices à ce genre de choses, et ça peut provoquer de la pluie. Sauf que visiblement, on ne maîtrise pas encore suffisamment le concept, et là, sans doute qu'ils ont été vraiment, vraiment trop loin. Ça a été plus que cyclonique, et surtout le problème, c'est que ces villes-là, comme c'est le désert habituellement qui ne pleut que très peu, il n'y a pas vraiment de système d'évacuation des eaux, ce qui fait qu'une bonne partie de la ville est restée inondée pendant plusieurs jours, avec toutes sortes, évidemment, reflux d'eau usée, de conséquences extrêmement désagréables. Et on peut imaginer qu'ils auront retenu la leçon. C'est bien sûr beaucoup moins grave que des bombardements et que de la guerre qui se profile peut-être avec cet affrontement irano-israélien ou ce conflit qui continue à Gaza. Mais en tout cas, cette région reste toujours au cœur de l'actualité, hein, c'est un peu l'avantage, même si on espère et on prie pour que la paix revienne, quelle que soit la religion ou la nationalité ou l'ethnie des populations sur place. Mais bien sûr, nous pensons particulièrement à nos frères chrétiens dans la région, aux chrétiens d'Orient, pour lesquels on doit rester attentif et si possible les aider. C'est ce que nous essayons de faire en tout cas. Merci pour votre attention pour cette chronique sur les chrétiens d'Orient.
Merci Marc Fromager, nous vous retrouvons le mois prochain. À très bientôt.
Merci à vous.
Au revoir. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Les Chrétiens d'Orient avec Marc Fromager. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast radiomaria.fr.